Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Direction les États-Unis, Thierry Garcin, bonjour.
Et bonjour Émilie Chaudet.
Avec ce premier mois de présidence Trump.
Voilà, le président Trump et sa politique étrangère avec notre invité Daniel Collard, bonjour. Vous êtes professeur de droit international à l'Université de Franche-Comté. Alors, première chose à dire, on manque beaucoup de recul, c'est sûr. Mais enfin, on est obligé de reconnaître que la personnalité du nouveau président américain contribue fortement à l'instabilité des relations internationales. Celui-ci se montre imprévisible, contradictoire, abrupt. On a peine à déceler des lignes directrices dans ses propos et dans ses premières décisions. Rien n'est clair pour les relations futures avec la Russie. Avec la Chine, les premiers contacts ont été catastrophiques. Le président est d'ailleurs revenu sur sa remise en cause d'une seule Chine. Avec le monde arabe et le monde musulman non arabe, le président s'est fait déjuger par sa propre justice lorsqu'il a voulu interdire l'entrée des États-Unis aux citoyens de 7 pays à majorité musulmane. Et avec le Mexique, par exemple, la situation n'est pas plus brillante. Reste à parler des relations avec les Européens. Le vice-président Mike Pence était à Bruxelles hier. Il a rendu visite à l'Union européenne, à l'Alliance Atlantique. Le fond de tableau n'est favorable à personne, au fond.
Oui, le sujet est difficile, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Mais je crois qu'il faut examiner la situation sous deux angles. D'une part, l'équation personnelle du président. On ne peut pas passer par perte de provis cette personnalité. Le 45e président des États-Unis, Donald Trump, il ne faut ni le surestimer ni le sous-estimer. Je crois que la bonne formule, si on veut caractériser ce président, c'est de citer Raymond Aron. Raymond Aron a écrit quelque part « Les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font ». On peut ajouter aussi « Les peuples font l'histoire, ils ne savent pas l'histoire qu'ils font ». Donc ce personnage est hors norme, c'est le moins qu'on puisse dire, d'un millionnaire, c'est un réaliste, c'est un pragmatique, c'est le produit du système américain également. C'est un personnage qui, sur le plan de la forme et des formes diplomatiques, bafoue toute la tradition existante.
Alors, si on prend les grandes têtes de chapitre, il faut rappeler, ou plutôt préciser, qu'il vient de nommer un nouveau conseiller à la sécurité nationale. Au fond, si on commence par les Russes, alors on n'y voit pas clair. Et ça va, c'est peut-être un peu tôt aussi.
Je crois qu'il faut remettre l'ensemble de ces relations dans son contexte. En fait, le mot important dans la diplomatie de Trump, c'est clarification. On ne sait pas exactement dans quelle direction va s'orienter la diplomatie américaine. Alors, dans les relations avec les Russes, il a fait plusieurs déclarations, d'ailleurs contradictoires, a mis un petit peu d'eau dans son vin, et ce qui bloque la relation, c'est évidemment l'affaire de l'Ukraine et l'annexion de la Crimée. Cette relation bilatérale est conjointe avec la relation sino-américaine, la Chine et les États-Unis.
Alors, en ce qui concerne les relations avec la Chine, là aussi, il est revenu, heureusement, sur sa remise en cause.
Les deux Chines, il voulait réintroduire les deux Chines, alors que Pékin n'a toujours dit qu'il n'y en a qu'une seule, et Taïwan fait partie de la Chine continentale au sens large du terme.
Alors, pragmatisme quand même, parce qu'il est revenu sur sa décision. C'est un peu au fond, si j'emploie une expression sportive sans doute impropre, il slalome avec lui-même.
Oui. En fait, c'est l'incertitude et l'inquiétude qu'il suscite pratiquement partout, et d'abord au sein des alliés, ceux de l'OTAN. Il crée un désarroi, c'est un déstabilisateur. Le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz a dit à propos de Trump qu'il bafouait l'ordre géoéconomique et géopolitique mis en place par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un déstabilisateur sur le plan du Moyen-Orient, sur le plan de l'OTAN, sur le plan du monde arabo-musulman. Il n'y a pas de ligne directrice, plutôt je vous connais en souligne de trois lignes directrices. D'une part, constamment il revient sur le slogan « l'Amérique d'abord ». Et ça c'est un point très important. La deuxième piste, c'est le protectionnisme économique et commercial des États-Unis. Et la troisième piste, c'est le patriotisme ou le nationalisme. Je crois qu'il faut partir de ces trois notions pour essayer de comprendre la stratégie diplomatique des États-Unis au seuil du 21e siècle.
Alors, vous citiez tout à l'heure le terme de désarroi à propos des réactions des Européens. Le sénateur républicain John McCain, qui est un homme respectable, a reconnu vendredi que l'équipe de Trump était en plein désarroi, c'est le mot qu'il a utilisé. Mais en fait, il y a deux choses qui frappent au moins dans la relation transatlantique. C'est qu'il affaiblit le président Trump, le propre statut, le propre rôle des États-Unis, et qu'il met beaucoup de confusion chez les atlantistes européens, parce que là, on est dans une sorte de flou un peu amateur, on va dire.
Oui, c'est l'impréparation et l'amateurisme, en fait, de la direction du président Trump pour le moment. Mais je crois que d'un bien peut sortir un mal. Je m'explique. Les déclarations contradictoires qui ont été faites sur l'OTAN permettraient, si les Européens étaient unis, de briser un peu la dépendance des États-Unis qu'ils ont depuis 1949, la fondation de l'OTAN. Et à ce moment-là, l'Europe pourrait devenir non pas un objet de l'histoire, mais un sujet de l'histoire. Je crois qu'on a une opportunité pour prendre notre autonomie, pour redevenir maître de notre destin, à condition que les Européens, finalement, soient d'accord entre eux.
Alors, à cela, on pourrait objecter effectivement que l'Europe subit le choc considérable du Brexit, qui n'est pas qu'un événement britannico-bruxellois. Et puis, l'Europe subit, on en parle trop peu, les violations vraiment organisées de l'État de droit. C'est pas un juriste que je vais dire ça. Dans plusieurs pays membres, la Hongrie, la Croatie, la Pologne, etc. Et qu'en plus, j'ai entendu cela à RFI ce matin, le président Trump prévoit une visite d'État, c'est ça, d'État qui est importante au Royaume-Uni, ce qui provoque apparemment des polémiques au sein même du Parlement britannique.
Oui, alors la position de la Grande-Bretagne, on la connaît, ils veulent rester dans l'Europe tout en sortant de l'Union européenne avec le Brexit. Mais ce qui est important pour l'avenir, c'est la défense de l'Europe, ou l'Europe de la défense qu'il faut mettre absolument en place, où on connaît la position des États-Unis qui réclament que chaque État membre de l'OTAN consacre 2% de son PIB à la défense. Mais le moment est venu, me semble-t-il, pour que les Européens prennent enfin en main leur défense, leur sécurité, ce qui leur donnerait évidemment une autonomie, une indépendance très importante.
D'ailleurs, cela dit, le président Trump met ses pas dans les pas de son prédécesseur, le président Obama, quand il dit aux Européens, vous ne mettez pas d'argent dans la défense, et il le dit d'une autre façon, d'une façon plus expéditive, mais enfin, c'est quand même les Américains qui ont raison, parce que si vous enlevez le budget britannique, et dans une moindre mesure le budget français de défense, il n'y a plus grand-chose, il y a une fonte des budgets de défense en Europe depuis 25 ans.
Sur ce point, les États-Unis ont raison. Il est tout à fait anormal que les Européens n'arrivent pas à mettre en place un système de sécurité, d'autant plus qu'il existe une conférence sur la sécurité en Europe, une organisation internationale qui d'ailleurs ne fait pas beaucoup parler d'elle. Mais l'aspect vraiment essentiel pour l'avenir du continent européen, c'est la mise en place d'un système de défense et de sécurité autonome. Mais il faudra évidemment payer. Il y a une crise économique qui sévit dans les pays les plus importants, je pense à la France, qui est quand même une puissance nucléaire. Il n'y a que deux puissances nucléaires à l'intérieur du continent européen, c'est la Grande-Bretagne et c'est la France. Et on ne peut pas sous-estimer non plus la place de l'Allemagne, qui n'est pas nucléaire, mais qui est la première puissance économique de l'Union européenne.
Bon, écoutez, on aura le temps effectivement de reparler de tout ça. Merci beaucoup. Je rappelle Daniel Collard que vous êtes professeur de droit international, Université de Franche-Comté, puis évidemment franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger.
Merci Thierry Garcin. Et demain, il sera question du monde arabe, l'évolution des sociétés par-delà les conflits et les guerres civiles.
Voilà, c'est tout l'aspect social et sociétal, et notamment le rôle de la femme dans l'évolution de ces sociétés. Notre invité sera Charles Thépeau, qui est auteur d'un ouvrage sur le monde arabe.
Merci Thierry Garcin et
à demain.